95.7 Saguenay. Le show du matin. Le show du matin.
Lundi 3 juin 2019, 7 degrés actuellement sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On annonce 15 en après-midi avec des possibilités d'averses. Et pour le reste de la semaine, ça devrait être un peu plus beau. Vous le savez, il y a deux semaines, j'ai été un chanceux, un privilégié qui a pu essayer un véhicule électrique pendant près d'une semaine. Mes chums de chez Hyundai du Saguenay que je salue ce matin m'ont prêté la Ioniq avec près de 200 km d'autonomie. Et comme 99% de mes déplacements se retrouvent à l'intérieur de 100 km, on s'entend, là, je ne me rends pas à Québec tous les jours, donc l'espèce de problème d'autonomie ne s'applique pas trop à moi. J'ai eu l'occasion de l'essayer, je suis tombé en amour avec ce véhicule-là. C'est la première fois de ma vie où quand je retourne à mon véhicule d'origine, qui se trouve à être une Elantra 2017, tu sais, d'habitude, je retourne dans mes terres, je retourne dans mes affaires, puis je suis content de retrouver mon véhicule. Cette fois-là, non, je m'en ennuie depuis que je suis allé la retourner au concessionnaire. J'ai découvert un mode de conduite qui est agréable. J'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai pas trouvé ça déplaisant du tout. Bon, oui, l'autonomie, ça peut effectivement décourager quelques personnes, mais dans mon cas, ça s'est bien passé. Il y a une guerre en technologie, un peu comme à l'époque de la VHS contre la Betamax ou encore du Blu-ray contre le DVD, le HD-DVD. Il y a des guerres de technologie et souvent, on se prononce pas au début parce qu'on sait pas qui va sortir gagnant de cette guerre-là. Dans le monde de l'automobile, c'était l'hydrogène versus l'électricité. Et on a plusieurs fois dit sur nos ondes, faites attention, peut-être que l'hydrogène, ça va être plus tentant, peut-être que ça va être plus performant, peut-être que les autres pays qui n'ont pas l'hydroélectricité comme nous, qui ne polluent pas, vont se tourner vers l'hydrogène. La conversion des stations-service, par exemple, risque d'être plus simple. Mais on dirait que plus les mois, plus les années passent, plus ça semble clair qu'il y a un des deux qui se démarque. Notre invité, Daniel Breton, ancien ministre de l'Environnement, maintenant chroniqueur au Journal de Montréal pour le Guide de l'Auto, a écrit un excellent article en fin de semaine. Monsieur Breton, bon matin.
Bonjour.
Qui a gagné cette guerre-là, selon vous, et est-il trop tôt pour se prononcer?
Ben, en fait, s'il est question de voitures ou de camions légers, la guerre a été gagnée par l'électrique, et c'est de plus en plus clair. Je me prononce parce que ça fait 45 ans que j'ai commencé à suivre le dossier, imaginez-vous donc. À l'époque, on parlait beaucoup de voitures à hydrogène dans les années 70. GM a commencé à faire des tests sur les voitures à hydrogène dans les années 50. Ce qui veut dire que la technologie de l'hydrogène n'a pas commencé à se développer hier. Je me rappelle, à la fin des années 90, début 2000, le gouvernement américain, les Allemands avaient mis beaucoup d'argent dans l'hydrogène. Et malgré ça, la technologie n'a pas beaucoup évolué, ce qui fait en sorte que, au même moment, les voitures électriques, la technologie des batteries ne cesse de s'améliorer. Les prix baissent de façon très importante, alors que l'autonomie augmente elle aussi. Écoutez, vous parlez d'une voiture électrique à 200 km d'autonomie. C'est aujourd'hui une des rares voitures qui n'offre que 200 km d'autonomie. La nouvelle norme s'est rendue 300, 400 et 500 km d'autonomie.
Quand même, ça s'est amélioré rapidement. Est-ce que c'est parce que les constructeurs ont décidé de faire ce choix-là ou c'est à la force d'avoir des demandes du public? Qu'est-ce qui a fait changer l'idée des constructeurs pour s'orienter vers l'électrique?
Deux mots, Elon Musk. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui a forcé tous les autres constructeurs à arriver avec des véhicules de plus en plus intéressants, de plus en plus performants, parce que la très grande majorité des constructeurs de constructeurs généralistes ne voulaient pas aller dans cette direction-là. Et lui a vraiment forcé la note. Quand on voit les ventes de Tesla Model 3, par exemple, aux États-Unis, qui sont aujourd'hui dans le top 5 des ventes de voitures aux États-Unis, on regarde les ventes de véhicules de luxe en Allemagne, où Tesla fait la barbe au BMW, au Audi, au Porsche de ce monde, c'est sûr que ça force la note. Et les grands constructeurs qui veulent, parce que certains veulent, d'autres moins, ben ça fait en sorte qu'on arrive avec des produits de plus en plus intéressants. Hyundai, avec la Ioniq et la Kona, sont deux véhicules intéressants.
Mais ça veut dire aussi, parce qu'il y a toujours une partie d'économie là-dedans, pour les stations à essence, eux voyaient ça quand même de façon intéressante de se convertir à l'hydrogène. Finalement, c'était pas si économique puis c'était pas si avantageux que ça. Je regardais les chiffres que vous avez publiés en fin de semaine. La conversion, ça pouvait coûter jusqu'à quoi? 5,2 millions de dollars?
Ben écoutez, là, on parle d'une station de ravitaillement à hydrogène qui a été construite à Québec récemment. 5,2 millions pour une station de ravitaillement, c'est extrêmement onéreux quand on compare ça avec une borne de recharge rapide à peu près à 70 000 $, coût d'installation incluse. Puis là, j'avais fait un petit calcul, c'était à peu près 75 bornes de recharge rapide pour une seule station de ravitaillement hydrogène. Donc, les coûts sont très chers, mais il y a une autre chose d'un point de vue consommateur, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut, nous, comme consommateurs, donner notre argent encore une fois et demeurer dépendant des stations-service, ou on préfère pas donner notre argent à une entreprise, ben, une société d'État qui nous appartient, qui est Hydro-Québec. Fait que d'un strict point de vue de l'économie du Québec, c'est plus intéressant de dire, ben, je préfère donner mon argent à Hydro-Québec, ben, malgré que des fois, on peut critiquer Hydro-Québec, que continuer à donner notre argent à des pétrolières qui, dois-je le rappeler, sont toutes étrangères.
Mais est-ce que c'est un peu inquiétant, ça, de savoir que le monopole, finalement, de l'énergie, que ce soit dans le chauffage, dans l'électricité courante ou encore même dans le monde des véhicules, risque d'être contrôlé, finalement, par une seule compagnie, une compagnie d'État? Est-ce que là, on a des prix qui sont avantageux? Vous faites le calcul de combien coûte faire le plein, finalement, d'électricité? C'est quoi, 1,50 $ à peu près?
Je disais que sur 100 km, ça coûte à peu près 1,50 $ avec une voiture électrique normale versus à peu près à 1,35 $, près de 11 $ pour une voiture à essence qui fait 8 litres au 100. Puis en fait, j'avais pas fait le prix exact parce que les chiffres sont un peu difficiles à compiler parce qu'on n'a pas toutes les données. Mais si on regarde en Californie, le même 100 km coûte à peu près 16 $ US.
OK, ouais.
Donc, c'est plus cher encore faire 100 km avec une voiture à hydrogène, au coût d'hydrogène, que ça coûte avec une voiture à essence. Fait que, oui, vous dites, est-ce qu'il y a de quoi d'inquiétant dans le fait d'être alimenté par Hydro-Québec, qui est notre société d'État, qui est un monopole? Mais la réalité, c'est que moi, le jeudi, je me préoccupe pas de savoir si le prix de l'électricité va augmenter. C'est-à-dire que nous, on sait jamais d'un jeudi à l'autre, ou quand arrivent les vacances de construction, si le prix d'essence ne sera pas un bon de 10 ou 15 cents le litre. Ici, c'est une fois par année. Ça joue entre 1 et 3 % d'augmentation par année. Donc, c'est assez prévisible. Alors que le prix d'essence, vous savez comme moi, est totalement imprévisible.
Est-ce que le prix environnemental d'un véhicule électrique, au Québec, on sait qu'on a de l'énergie propre, c'est une chose, mais ailleurs, par exemple, si on prend les États-Unis, si on fait les trois véhicules, là, puis qu'on part de la construction jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'une pile au lithium, c'est quand même très polluant. Est-ce qu'on arrive à peu près au même résultat ou il y en a vraiment une qui se démarque d'un trois?
Mais en fait, il y a un site web qui est celui du département américain de l'énergie qui fait une analyse comparative extrêmement intéressante où il compare état par état en fonction de la source de production d'électricité, en fait des sources de production d'électricité dans chaque état, l'impact environnemental d'une voiture à essence versus une voiture hybride versus une voiture hybride rechargeable versus une voiture 100% électrique. Mm-hmm. Et en 2017, on en était au résultat suivant. Vous avez 38 États sur 50 où la voiture électrique était déjà plus propre que la voiture à essence. Et dans les 12 autres États, c'était la voiture hybride. Donc, dans 0 État sur 50, la voiture à essence était plus propre que la voiture hybride ou électrique. Mais au même moment où les véhicules électriques deviennent de plus en plus propres parce que les sources de production d'électricité américaines deviennent de plus en plus propres, c'est-à-dire qu'on se débarrasse graduellement des centrales au charbon, on les remplace par des centrales soit au gaz naturel, soit du solaire ou d'éolien. Et au même moment, les voitures à essence deviennent de plus en plus chères parce que plus ça va, en Amérique du Nord, entre autres, plus notre pétrole, notre essence, on la prend de sources non conventionnelles. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est du pétrole de gaz de schiste, du pétrole de schiste ou du pétrole des sables bitumineux. Donc, le pétrole qu'on met dans nos voitures est plus polluant maintenant qu'il était il y a 10 ans.
Mm-hmm. C'est quand même intéressant. En terminant, M. Breton, je sais que vous êtes un ancien ministre de l'Environnement pour le Parti québécois. Ici, dans la région, vous n'êtes sûrement pas sans savoir, puis je pense que les démarches avaient commencé avec votre gouvernement, qu'il y a un projet important de gaz liquéfié, de gaz naturel qui s'en vient ici, qu'on appelle GNL Québec. Ouais, votre ancien collègue Sylvain Godreau se prononce contre, a même attiré tout le parti contre le projet. J'aurais aimé vous entendre là-dessus, parce qu'on parle de transition. Vous m'avez dit, dans certains États, on est en train d'abandonner le charbon pour le gaz liquéfié. Nous, c'est un peu l'argumentaire de la compagnie de nous dire on veut participer à la transition. M. Godreau nous dit non, il faut passer de la vieille technologie à la toute nouvelle technologie récente. Vous vous situez où dans ce débat-là, vous?
Écoutez, moi, la première fois où j'ai eu à me prononcer sur ce dossier-là, ça fait 14 ans. Parce que c'est pas nouveau, ce projet-là. Ça fait longtemps, bien plus longtemps que les gens s'en rappellent. Et puis, dès cette époque-là, moi, je disais que le gaz naturel qu'on voit comme une solution pour diminuer les gaz à effet de serre, quand on regarde l'impact des fuites de méthane. C'est-à-dire que le gaz naturel, si on le brûle, il est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, si on le met dans une voiture au gaz naturel versus une voiture à essence, on dit ça va émettre à peu près 25 % moins de CO2. problème, c'est les fuites de méthane. C'est-à-dire que dans le réseau, pendant l'exploitation puis pendant l'utilisation, il y a tellement de fuites de méthane que les gains du gaz naturel sont annulés complètement par les fuites. Ce qui fait que c'est pas vraiment une solution de transition. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec ça.
Ah oui, parce que même si, par exemple, on fournit des pays en Europe qui vont pouvoir amorcer une transition, qui vont donc émettre moins de gaz à effet de serre, au global, là, sur la planète, on serait mieux de ne pas faire... Puis ce projet-là, c'est des milliards de dollars. C'est un des plus gros projets industriels au Québec. Ça serait souhaitable que Québec embarque pas là-dedans?
Ben moi, je pense que on a tout avantage à aller vers des solutions plus innovantes que le gaz naturel, qui, à mon avis, j'appelle ça un diachylon sur un bras cassé. Là, je veux dire, c'est de dire que le gaz naturel, surtout que la majorité du gaz naturel d'aujourd'hui, c'est du gaz de schiste, de dire qu'il y a un gain environnemental au niveau des GES, c'est complètement faux, en fait.
Mais pourtant, c'était sous votre gouvernement que GNL avait fait les premières approches. C'était pas dans le ministère de Mme Zakaïa?
Non, c'était bien avant ça. Là. Sous le gouvernement de Jean Charest. Mm-hmm. Moi, je vous dis, on parlait de ça en 2004, 2005, 2006.
OK. Puis là, ben, on est plus proche du concret qu'autre chose. Non, je trouve ça intéressant de vous entendre à titre d'ancien ministre de l'Environnement. Monsieur Breton, merci de nous avoir parlé ce matin.
Ça me fait plaisir.
Je vous souhaite une bonne journée.
Aussi.
Monsieur Daniel Breton, ancien ministre de l'Environnement péquiste dans le fameux gouvernement de 18 mois de Pauline Marois. On parlait de la voiture électrique versus la voiture à hydrogène. Honnêtement, est-ce que la guerre est gagnée? Moi, j'achète ces arguments. Je n'ai conduit une. Honnêtement, je vois de moins en moins d'obstacles à ce qu'on remplace nos véhicules à essence par des véhicules électriques. Le seul problème encore pour une région comme la nôtre, ça va être l'autonomie. C'est vraiment le nerf de la guerre. Dans une région comme la nôtre, on doit être capable de se déplacer à Québec, on doit être capable de se déplacer à Montréal et on doit être capable de faire le tour du lac, ne serait-ce que faire le tour du lac sans avoir à s'arrêter des 30 puis des 45 minutes. Et dans l'article, il parlait des nouvelles générations de bornes à recharge qui vont nous permettre de peut-être faire le plein. Là, j'utilise le mot le plein, là, même si c'est pas vraiment ça. On parle de recharge très, très, très rapide. Donc, ça pourrait prendre 15 minutes pour remplir, pour recharger les véhicules électriques. Donc, la technologie avance à grands pas dans ce domaine-là. 7h58, dans quelques minutes, on s'entretient avec le porte-parole de la police de Saguenay. Il est arrivé un événement assez particulier hier soir.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick Saguenay.